Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
Stephen King, La Tour sombre, 2. Les trois cartes. À Don Grant, qui a misé sur ses romans, un par un. Argument. Les trois cartes est le deuxième tome d'un long récit, La Tour sombre, qui puise ses racines dans un poème narratif de Robert Browning, intitulé Le chevalier Roland s'en vint à la Tour noire, lui-même inspiré du roi Lear. Le premier volume, Le Pistolero, raconte comment Roland, le dernier pistolero d'un monde qui a changé, finit par rattraper l'homme en noir, un sorcier qui l'a poursuivi pendant très longtemps. Combien de temps, nous ne le savons pas encore. Nous découvrirons par la suite que l'homme en noir est un certain Walter qui se prétendait l'ami du père de Roland en ces jours où le monde n'avait pas encore changé. Ce qui pousse Roland dans sa quête, ce n'est pas cette créature à demi-humaine, mais la tour sombre. L'homme en noir, et surtout ce qu'il sait, représente la première étape sur la route du pistolero, jusqu'à ce lieu de mystère. Mais qui est Roland? À quoi ressemblait son monde avant de changer? Qu'est donc cette tour? Et pourquoi est-il à sa recherche? Nous n'avons que des fragments de réponses. Roland est un pistolero, une sorte de chevalier chargé d'assurer la pérennité de ce monde d'amour et de lumière dont il se souvient. Nous savons que Roland, très tôt, a dû prouver qu'il était un homme, après avoir découvert que sa mère était devenue la maîtresse de Martin, un sorcier infiniment plus puissant que Walter, lequel, à l'insu du père de Roland, est en réalité l'allié de Martin. Nous savons que Martin avait prévu la découverte de Roland, qu'il s'attendait à ce que ce dernier échoue et soit envoyé à l'ouest. Enfin, nous savons que Roland est sorti vainqueur de cette épreuve. Que savons-nous d'autre ? Que le monde du pistolero n'est pas radicalement différent du nôtre. Des éléments tels qu'une pompe à essence, des chansons, Hey Jude par exemple, ou des comptines, Fayot, Fayot, fruits musicaux, ont survécu. Tout comme des coutumes et des rituels qui évoquent étrangement l'épopée de la conquête de l'Ouest. D'une certaine manière, un cordon ombilical relie notre monde à celui du pistolero. Dans un relais sur la route déserte empruntée par les diligences, au cœur du désert nu et stérile, Roland rencontre Jake, un jeune garçon qui est mort dans notre monde à nous. Un garçon qui fut en réalité poussé sous les roues d'une voiture par l'homme en noir, roi de l'ubiquité et de l'iniquité. La dernière chose que Jake, qui se rendait à l'école, son cartable dans une main et son casse-croûte dans l'autre, se rappelle de son monde, notre monde, ce sont les roues d'une Cadillac qui foncent sur lui et le tuent. Avant d'atteindre l'homme en noir, Jake meurt à nouveau. Cette fois parce que le pistolero, confronté à l'un des choix les plus douloureux de son existence, décide de sacrifier ce fils symbolique. Entre la tour et l'enfant, la damnation et le salut, Roland opte pour la tour. « Allez-vous-en, lui dit Jake avant de plonger dans l'abîme. Il existe d'autres mondes que ceux-ci. » La confrontation finale entre Roland et Walter survient dans un Golgotha poussiéreux rempli de squelettes. L'homme en noir lit l'avenir de Roland dans un jeu de tarot. Ses cartes, qui montrent les personnages du prisonnier, de la dame d'ombre et une figure ténébreuse qui n'est autre que la mort, « Mais pas pour toi, pistolero, lui dit l'homme en noir, sont des oracles qui deviennent le fil conducteur de ce volume, et pour Roland, la deuxième étape sur la route longue et ardue qui mène à la tour sombre. » Le pistolero s'achève quand Roland, assis sur la plage bordant la mer occidentale, regarde le soleil se coucher. L'homme en noir est mort, l'avenir du pistolero lui-même demeure obscur. Les trois cartes commencent sur cette même plage, moins de 7 heures plus tard. 19. Renouveau. Prologue. Le marin. Le pistolero émergea d'un rêve trouble qui ne semblait constitué que d'une seule image, celle du marin, une lame du tarot dans laquelle l'homme en noir avait déchiffré, ou prétendu déchiffrer, son avenir gémissant. « Il se noie, pistolero, » disait l'homme en noir, « et personne ne lui lance de bouée. C'est ce garçon, Jake. » Mais cela n'avait rien d'un cauchemar. C'était un bon rêve. Bon, parce que c'était lui qui se noyait, ce qui signifiait qu'il n'était pas Roland, mais Jake. Il en fut soulagé parce qu'il valait mieux se noyer dans la peau de Jake que de vivre dans la sienne, celle d'un homme qui, pour un rêve glacé, avait trahi un enfant qui lui avait fait confiance. « Parfait. Je vais me noyer, » se dit-il, attentif au rugissement de l'océan. Ainsi soit-il. Mais ce vacarme n'était pas celui du large et de ses abîmes. De l'eau, certes, mais qui se raclait la gorge, une gorge encombrée de gravier. Était-ce lui, le marin? Si oui, pourquoi la terre ferme était-elle si proche? En fait, n'était-il pas sur le rivage? Il ressentait comme... Une eau glaciale détrempait ses bottes, montait à l'assaut de ses cuisses, de ses parties. Ses yeux s'ouvrirent, et ce qu'il arracha à son rêve n'était ni ses couilles gelées, subitement rétrécies à la taille de 2 noix, ni l'horreur qui surgissait sur sa droite, mais la pensée de ses armes. De ses armes, et plus essentielle encore, de ses cartouches. On pouvait en peu de temps démonter des pistolets, les essuyer, les huiler, les réessayer, les rehuiler, puis les remonter. Mais les cartouches qui avaient pris l'eau étaient comme des allumettes mouillées. Ou bien elles pourraient encore servir, ou bien elles étaient bonnes achetées. L'horreur était une créature progressant au ras du sol et qui avait dû être rejetée sur la grève par la vague précédente. Elle traînait péniblement sur le sable un corps luisant d'humidité, mesurait son bon mètre, était encore distante de 4 environ, et posait sur Roland le regard morne de ses yeux pédonculés. Son long bec denté s'ouvrit, et ce qui s'en échappa ressemblait étrangement à des sons humains, une voix plaintive, désespérée même, qui interrogeait le pistolero dans une langue étrangère. « Est-ce que Jake ?»« Ah, ce que chale ?» Ce que chule, ce que chic. » Le pistolero avait déjà vu des homards. Ce n'en était pas un, bien qu'il ne vît pas à quelle autre famille que les crustacés cet animal aurait pu être apparenté. La créature ne semblait pas avoir peur de lui, et il ne savait pas si elle était dangereuse ou non. La confusion qui régnait dans son esprit ne l'inquiétait pas outre mesure. Cette incapacité temporaire à se rappeler où il était et comment il était arrivé en ces lieux, s'il avait rattrapé l'homme en noir ou n'avait fait que le rêver. Il savait seulement qu'il lui fallait au plus vite sortir de l'eau avant que ses munitions ne soient noyées. Il entendit s'enfler le rugissement graveleux des flots et détourna les yeux de la créature. Elle s'était arrêtée, levant des pinces dont elle ne s'était servie jusqu'ici que pour se tracter en avant. Elle évoqua au pistolero une vision absurde, celle d'un boxeur prêt à l'attaque, dans cette pose que Cort appelait « posture d'honneur ». Son regard se porta sur la frange ourlée d'écume de la vague suivante. « Cette chose entend les vagues », pensa le pistolero. « Quoi que ce soit, c'est pourvu d'oreilles ». Il voulut se relever, mais ses jambes trop engourdies se dérobèrent. « Je suis toujours dans mon rêve, » songea-t-il. Mais si troublé qu'il fût, une telle hypothèse était trop tentante pour être vraiment crédible. Il fit un nouvel essai pour se redresser. Il parvint presque, puis retomba sur le dos. La vague allait déferler. Le temps manquait de nouveau, il fallait qu'il se déplace presque de la même manière que la créature à sa droite. Les deux mains plantées dans la grève et tirant le poids mort de ses jambes et de ses fesses loin du flot montant. Il ne s'éloigna pas assez pour éviter totalement la vague, mais se trouvait suffisamment hors d'atteinte pour que l'eau ne recouvre que ses bottes. Elle lécha ses jambes jusqu'en dessous des genoux, puis battit en retraite. Peut-être que la première vague n'est pas montée aussi haut que je le pensais, se prit-il à espérer. Une demi-lune brillait dans le ciel. Elle était voilée par la brume, mais sa clarté restait suffisante pour lui révéler la couleur trop sombre de ses étuis. Les revolvers, pour le moins, avaient été mouillés. Impossible de déterminer la gravité des choses, toutefois, ni de savoir si les balles dans les barillets et dans les ceinturons avaient-elles aussi souffert. Avant de vérifier, il lui fallait s'extirper de l'eau. Il fallait...
Oh, ce que... choc!
Beaucoup plus près, cette fois. Dans son angoisse de voir ses munitions trempées, il avait fini par oublier la créature rejetée par les flots. Il regarda autour de lui et vit qu'elle se trouvait à moins d'un mètre, pattes accrochées au galet, tirant vers lui sa carapace encroûtée de sable, soulevant son corps charnu, hérissé, qui, un instant, évoqua celui d'un scorpion. À ceci près que Roland ne vit nul dard à l'autre extrémité. Nouveau rugissement, plus fort encore. La bête s'arrêta aussitôt, se redressa, pince en garde dans sa singulière version de la posture d'honneur. La vague était plus grosse. Roland recommença de se traîner sur la grève, et quand il tendit les mains, la créature jaillit à une vitesse que sa lenteur précédente ne laissait pas soupçonner. Le pistolero ressentit une vive onde de souffrance dans la main droite, mais il n'avait guère le temps de s'y attarder. Il prit appui sur les talons de ses bottes détrempées, s'agrippa des deux mains et réussit à échapper à la vague.
« Isque chic !»
Sans qui le monstre de cette voix plaintive qui semblait répéter interminablement « Vas-tu m'aider, oui ou non? Es-tu insensible à mon désespoir ?» Et Roland vit disparaître l'index et le majeur de sa main droite dans le bec denté. La créature réitéra son assaut et cette fois, Roland n'eut que le temps de relever sa main dégoulinante de sang pour sauver les autres doigts.
« Ce que choule ! Ah, ce que châle !»
Le pistolero se releva, chancelant. La créature déchira la toile gorgée d'eau de son jean, cisailla une botte dont le vieux cuir, bien que souple, n'en avait pas moins la résistance du métal, et préleva un morceau de chair sur le bas du mollet. Il dégaina de sa main droite. Ce n'est que lorsqu'il vit le revolver tomber sur le sable qu'il s'aperçut que deux de ses doigts manquaient pour accomplir cet antique cérémonial de mort. La monstruosité se tourna vers l'objet tombé avec un claquement de bec avide.
« Non ! Saleté !»
grogna Roland qui lui décocha un coup de pied. Ce fut comme s'il avait frappé un rocher, mais un rocher qui aurait mordu. Le bout de sa botte fut nettement sectionné, ainsi que la majeure partie de son gros orteil. La botte entière lui fut arrachée du pied. Il se baissa et ramassa l'arme. Elle lui échappa et il jura, avant de réussir finalement à la prendre en main. Ce qui jadis avait été si simple qu'il n'avait même pas à y réfléchir, se transformait à présent en prouesse de jongleur. Tassée sur la botte du pistolero, la créature la déchiquetait tout en poursuivant le charabia ininterrompu de ses questions. Une lame roula vers la grève, et l'écume qui frangeait sa crête était d'une pâleur cadavérique dans la clarté du demi-disque lunaire. L'homarstruosité cessa de s'acharner sur sa prise et leva de nouveau les pinces dans sa pose de boxeur. Roland dégaina de la main gauche, pressa trois fois la détente. Clic, clic, clic. Il était maintenant fixé sur les balles des barillets. Il rengaina le pistolet de gauche. Pour celui de droite, ce fut une autre affaire. Il dut faire pivoter le canon de l'autre main avant de le lâcher au-dessus de l'étui pour le laisser reprendre sa place. Le bois dur des crosses était visqueux de sang. Ce même sang qui tachait aussi le cuir de l'étui et le jean. Il jaillissait des moignons qui remplaçaient maintenant ses deux doigts manquants. Son pied droit, abondamment mâchonné, était encore trop engourdi pour faire mal. Mais sa main droite était un incendie de douleur. Les spectres de ses doigts autrefois si talentueux et rompus à leur art, ses doigts qui se décomposaient déjà dans les sucs digestifs du monstre, hurlaient qu'ils étaient toujours là et se tordaient dans le martyre des flammes. « Je pressens de sérieux ennuis », songea faiblement le pistolero. La vague reflua. La monstruosité abaissa ses pinces, ouvrit un nouveau trou dans la botte du pistolero, puis décida que le propriétaire de la dite botte était infiniment plus succulent que ce morceau de cuir mort qu'elle venait de détacher.
« Ce que chule !»
s'enquit l'animal en se ruant à nouveau sur lui, toujours à la même vitesse. « Effroyable !» Le pistolero battit en retraite, porté par des jambes qu'il sentait à peine, et prenant conscience d'avoir affaire à une créature douée de quelque intelligence. Prudente dans son approche, elle devait l'avoir guetté de loin sur la grève pour mieux s'informer des capacités de cette proie éventuelle. Si la vague ne l'avait pas réveillée, elle lui aurait probablement arraché la figure pendant qu'il était encore plongé dans son rêve. Maintenant, la créature s'était fait une opinion. Ce gibier s'avérait non seulement délicieux, mais des plus vulnérables, une proie facile. Elle était presque sur lui, cette horreur de plus d'un mètre de long, haute d'une bonne trentaine de centimètres, pesant dans les 35 kilos. Elle semblait mue par un instinct carnassier aussi puissant que celui de David, le faucon de sa jeunesse, mais sans les vestiges de loyauté du noble oiseau. Le talon du pistolero rencontra une pierre qui affleurait sous le sable, et il chancela, tombant presque à la renverse.
« Ce que choque !»
demanda la chose, avec sollicitude, sembla-t-il, tenant le pistolero sous le regard oscillant de ses yeux pédonculés et tendant vers lui ses pinces. Puis une vague déferla et les pinces remontèrent en posture d'honneur. Elles se mirent toutefois à trembler imperceptiblement, et Roland comprit que c'était une réponse au bruit du ressac. Puis le bruit faiblit peu à peu. Toujours à reculons, le pistolero enjamba la pierre sur laquelle il avait failli tomber, puis se baissa au moment où la vague se fracassait sur les galets dans un grondement infernal. Sa tête n'était qu'à quelques pouces du faciès d'insecte de la chose, et l'une des pinces aurait fort bien pu lui arracher les yeux, mais l'une et l'autre, pareilles à des poings crispés, restaient levées de part et d'autre de son bec de perroquet. Les mains du pistolero se tendirent vers la pierre. Elle était de belle taille, à demi enfouie dans le sable, et sa main mutilée se tordit de douleur quand les grains et les arêtes tranchantes travaillèrent la chair à vif. Mais il parvint à déceler le bloc et le souleva, tandis que ses lèvres se retroussaient haut sur les gencives dans un rictus de souffrance.
« Ah, ce que !» commença le monstre, rabaissant ses pinces et les ouvrant alors que la vague se brisait, que le vacarme refluait.
De toutes ses forces, le pistolero projeta la pierre. Le dos segmenté de la créature se fracassa. Pattes et pinces s'agitèrent convulsivement sous la masse qui l'accablait. L'arrière-train se soulevait et retombait, De bourdonnantes explosions de douleur se substituèrent aux questions. Elle rouvrit ses pinces pour les refermer sur le vide. Son semblant de bec claqua en n'attrapant plus que des grains de sable et des galets. Et pourtant, quand la vague suivante s'approcha de la grève, l'omarstruosité tenta une fois de plus de redresser les pinces, et ce fut alors que la botte valide du pistolero lui écrasa la tête. Le bruit ressemblait à celui d'une poignée de brindilles que l'on froisse. Un liquide épais gicla sous le talon de Roland et se projeta dans deux directions. Ça avait l'air noir. La créature s'arqua, se tordit, frénétique. Le pistolero pesa de tout son poids. Une vague déferla. Les pinces de l'horreur se soulevèrent de 3-4 centimètres, tremblèrent, puis retombèrent, s'ouvrant et se fermant par saccades. Roland souleva sa botte. Le bec denté qu'il avait amputé à vif d'un orteil et de deux doigts s'ouvrit avec lenteur, puis tout aussi lentement se referma. Une antenne gisait, brisée sur le sable. L'autre vibrait sans plus de raison. Il écarta la pierre du pied, effort qui lui arracha un gémissement. Puis, longeant par la droite le corps de la créature, il imprima méthodiquement sa botte gauche, section par section, broyant la carapace, éclaboussant le sable gris foncé d'entrailles livides. Le monstre était mort, et bien mort, mais n'allait pas s'en tirer à si bon compte. De toute son étrange existence, le pistolero n'avait jamais été si fondamentalement atteint, et tout s'était passé de façon si inattendue. Il continua de broyer le cadavre de son agresseur jusqu'au moment où il vit le bout d'un de ses doigts dans la bouillie acide, vit sous l'ongle la blanche poussière du Golgotha, là où lui et l'homme en noir avaient tenu leur longue, très longue palabre. Puis il se détourna et vomit. Il se tourna vers l'océan, tel un ivrogne, crispant sa main blessée contre le tissu de sa chemise, se retournant de temps à autre pour voir si la créature n'était pas toujours en vie, comme ces guêpes qu'on écrase encore et encore, et qui pourtant se tortillent toujours, assommées mais pas mortes. Pour s'assurer qu'elle ne le suivait pas, ne le poursuivait pas de sa voix lugubre et désespérée, de ses incompréhensibles interrogations. Il s'arrêta au milieu de la plage, chancelant, et contempla les galets jonchés de varech à l'endroit même où il était revenu à lui, tandis que les souvenirs remontaient dans sa mémoire. Il avait apparemment sombré dans le sommeil juste en dessous de la ligne laissée sur la grève par les plus hautes marées. Puis il ramassa sa bourse et sa botte déchirée. Dans la lumière glabre de la lune, il vit d'autres créatures comme celles qu'il avait attaquées, et dans la césure entre une vague et une autre, entendit résonner leurs questions. Pas à pas, le pistolero recula jusqu'à l'herbe qui succédait au galet. Là, il s'assit et fit tout ce qu'il savait devoir faire. Il sacrifia ses derniers restes de tabac, s'en saupoudra les moignons des doigts et de l'orteil pour arrêter l'hémorragie, sans lésiner sur l'épaisseur de l'emplâtre. Il demeura sourd au nouvel assaut de douleurs cuisantes. Son gros orteil s'était joint au cœur hurlant des absents. Puis il resta assis, couvert de sueur dans la fraîcheur nocturne, s'interrogeant sur l'infection, s'interrogeant sur la manière dont il allait se débrouiller dans ce monde avec deux doigts de sa main droite en moins, celle qui avait toujours prévalu, sauf quand il usait des deux mains pour jouer de ses armes, s'interrogeant sur l'éventuel venin qu'avaient pu lui injecter les dents de la créature et qui risquait déjà de se diffuser en lui, se demandant enfin s'il verrait jamais se lever un nouveau matin.